Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Ça va, je ne vous ai pas réveillée?
Non, bien, je remercierai notre réalisateur. Voilà, bon, bref.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre émission consacrée à notre vie quotidienne, que ce soit du côté perso ou professionnel. Ici, on aborde tous les sujets sans tabou, mais surtout, on vous donne nos meilleurs conseils et nos bons plans. Alors ce matin, Mélanie, par quoi on attaque?
Allez, maintenant que je suis réveillée, on y va. Eh bien Julia, aujourd'hui, on va commencer par cette question. Quelles sont les croyances qui nous empêchent d'être heureux en amour? Vous savez, du type « avec moi, il va changer » ou encore « les opposés s'attirent ». Bref, on va déjà décoder ces mythes et on va les remettre en question. Ce sera un petit coup de main pour tous ceux qui cherchent encore l'amour. Et ce petit coup de pouce, c'est Camille Rocher qui va nous le donner. Elle est psychologue et thérapeute de couple.
Et puis Mélanie, à 11h35, il y aura comme chaque matin notre dossier bien-être du jour. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir avec nous la sonothérapie, la thérapie par le son. C'est un ensemble de techniques utilisant les vibrations sonores émises par des instruments vibratoires tels que le gong, les bols tibétains ou encore les diapasons thérapeutiques. L'objectif premier de tout ça, eh bien, c'est la relaxation et le bien-être. On va tout vous expliquer avec Swad Gong. Il est musicien professionnel et sonothérapeute.
Ensuite, Julia, à midi, ce sera notre séquence tendance avec notre bande de chroniqueurs, toujours à l'affût de ces nouveautés, de ces bons plans qui changent la donne, qui nous facilitent la vie. Alors, il y aura d'abord Nathalie Breton, notre madame livre jeunesse. Aujourd'hui, elle va nous proposer une sélection d'ouvrages parfaitement adaptés aux enfants hypersensibles. Et puis, on retrouvera aussi Sophie Braffman, notre spécialiste mode, qui va nous surprendre aujourd'hui avec un accessoire qu'on détestait enfant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Julia, c'est le grand retour de la cagoule. Vous savez, ce truc qui gratte là et qu'on détestait en hiver, eh bien, c'est la tendance de l'hiver 2022, même si ça paraît dingue.
Et enfin, Mélanie, on va finir ce tour de table des tendances avec Philippine Darblay, qui viendra sans cagoule pour le coup, puisqu'elle nous invite à tester tous les bienfaits de sauna infrarouge. Elle nous illuminera de ses conseils à la fin de cette émission.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre. Et donc ce jeudi, on vous propose de démarrer l'émission avec cette question. Quelles sont les croyances, les fausses croyances qui nous empêchent d'être heureux en amour?
Et oui Mélanie, il y aura de l'amour dans l'air aujourd'hui. Dans Bien fait pour vous, on va surtout battre en brèche un certain nombre de mythes amoureux qui peuvent nous créer des blocages dans notre vie sentimentale, comme, je sais pas moi par exemple, les opposés s'attirent. Mais d'où ça sort franchement cette idée? On va décrypter tous ces mythes dans quelques instants avec notre invité. Mais avant ça, on va demander à notre Cupidon humoriste, comment les gens dans la rue ont réagi à notre question du jour. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour tout le monde, je suis de très bonne humeur car aujourd'hui on va parler d'amour et vous savez que j'adore ça.
Vous êtes un lover, hein, c'est vrai.
Je suis un amoureux, effectivement. Je suis un homme heureux et justement c'est pas simple d'être heureux quand on est en couple. Alors déjà, je me suis tourné vers les enfants. Amour rime avec toujours. Est-ce que c'est vrai ou pas? Combien de temps ça dure en moyenne une histoire d'amour?
Ben non. Parce que tu peux déjà ne plus aimer une personne parce que dans toute ta vie tu vas croiser d'autres personnes et peut-être que tu vas la préférer à une autre personne.
Ben voilà, c'est vrai, c'est déjà, pas bête, hein. Ils sont pas optimistes, hein.
Ah, on est loin des contes de fées, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Là, non, il y a un moment où tu vas préférer quelqu'un d'autre, ça va peut-être s'arrêter, on ne sait pas. En tout cas, je me suis tourné vers les ados à ce moment-là et j'ai voulu savoir c'est quoi des problèmes dans un couple.
Bah, il veut toujours être là, le centre de l'attention et tout. Bah, c'est un peu relou et lassant.
Quand pour un oui et pour un non, on va s'embrouiller. Ton compagnon, il aime pas une personne, tu vois la personne, et bah, ça va l'énerver, et du coup, ça va faire une embrouille.
Ça sent le vécu,
ça. Ça sent le vécu alors qu'elles n'ont que 15-16 ans. Et là, j'ai croisé un couple. Ils sont ensemble depuis quelques années et je me suis permis de m'immiscer entre eux et de leur dire « Mais c'est quoi alors vos problèmes de couple? Qu'est-ce qui fait que parfois ça va moins bien ?»
Elle part peut-être souvent un peu trop dans les tours.
Moi, c'est peut-être son côté maniaque par rapport aux choses de fille, genre les cheveux dans la douche.
Oui, elle est pas assez maniaque, ça m'agace. On dit souvent que c'est les hommes qui foutent le bordel, mais là, je crois que c'est l'inverse.
Ouais, le petit rire de « je vais m'en prendre une après ce reportage », c'est bien. 10 ans de vie commune ruinée par Europe 1, merci beaucoup. Après, j'ai croisé une femme qui avait 50 ans de mariage et là, je me suis dit « waouh, bravo ».
Il oublie peut-être plus de choses maintenant qu'au début, voilà. Plus lent, beaucoup plus lent à réagir.
Voilà. Bah dis donc, 50 ans qu'elle lui parle comme ça, vous pensez?
J'ai l'impression, alors là, il n'était pas à côté, mais peut-être qu'il nous écoute, on ne sait pas. Alors justement, je me suis tourné vers d'autres personnes et je me suis dit, qu'est-ce qui, quand on se met en couple, est très agréable au début et peut devenir un peu pénible avec les années?
Les surnoms, c'est très cucu la praline. Genre mon amour, tout ça, au début, c'est bien, c'est drôle, c'est mignon, mais au bout d'un moment, stop.
Ben, elle a raison, hein.
Genre, mon amour, bébé, chérie, c'est bon, stop. Ça va pousser. Ah non, j'aime vraiment pas ça, c'est horrible.
Alors, c'est toujours les ados vus de l'extérieur. Hein. Oui. Vu de l'extérieur, c'est ça. On commence, oh, quand on s'appelle, oh mon petit minou.
Comment vous appelez votre chérie ?
Ma chérie.
Oh, bah voilà, je suis tombée.
Et vous, Mélanie, comment s'appelle votre mari ?
Bébé, mon amour, chérie, hein, je suis ridicule, je crois.
Ouais, mais c'est trop mignon.
Et enfin, je vous quitterai justement avec cette femme qui a peut-être trouvé la solution pour être heureuse, en tout cas pour ne pas être déçue par le quotidien.
Quand je l'ai rencontré, il jouait tout le temps à FIFA, il regardait tous les week-ends la Formule 1 et il mangeait trop mal. Du coup, bah, avec le temps, c'est pas si pire, c'est même plutôt mieux, je dirais.
Oui. Pas mal.
Prenez quelqu'un avec énormément de défauts, comme ça on s'habituera. Au pire, si les qualités se développent, ça peut être que mieux.
Mais quelle bonne idée, merci.
Merci hein. Beaucoup Clément Lanoux pour ce reportage de terrain. Vous arrivez vraiment à faire parler des gens sur tous les sujets, hein, y compris les plus intimes.
Oui, enfin j'ai ruiné un couple là.
Vous
quand même.
Vous êtes fantastique. Bon, à présent, on va accueillir notre invité. Bonjour Camille Rocher.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes psychologue, elle aimait aussi hein, votre reportage, on va voir ce qu'elle va vous en dire. Camille, vous êtes psychologue, thérapeute de couple et l'auteur du livre « Les cinq croyances qui empêchent d'être heureux en couple » aux éditions Larousse. Alors, on entend par là, par exemple, je donne quelques expressions, parce que là, on dit les croyances au sens large, mais il y a, par exemple, avec moi, il ou elle va changer, ou encore les opposés s'attirent. D'où nous viennent ces croyances? Alors, elles sont ancrées vraiment dans notre cerveau?
En fait, ce sont souvent ce qu'on appelle des scénarios de vie. Ce sont des plans de la vie qu'on s'est construit au fur et à mesure des événements qui se sont passés, alors que ce soit dans notre enfance, notre adolescence, les événements jeune adulte, tout ça. Ce qui ont fait qu'on s'est dit dans la tête, pour être heureux, il faut que... Et c'est là le scénario. Donc par exemple, pour être heureux, il faut que je trouve quelqu'un que je vais changer, comme ça il sera dépendant de moi, il me quittera jamais. Vous voyez, ça peut être...
C'est une croyance. C'est une des cinq croyances que vous évoquez ?
C'est
une des cinq croyances que vous évoquez ? Vous pouvez nous les citer rapidement ?
Alors, les croyances, c'est évidemment l'amour-passion. Il faut être tout le temps passionné pour être heureux. Ça va être les opposés s'attirent, avec évidemment la question, est-ce que les ressemblances rassemblent aussi. Il va y avoir la vie est un long fleuve tranquille avec l'idée qu'il faudrait jamais qu'on soit en conflit parce que sinon ça veut dire qu'on n'est pas heureux en couple.
Et un jour mon prince viendra.
Voilà, exactement. Et après, un jour mon prince viendra, qui est là pour le coup, c'est vraiment l'idée que je vais trouver la personne parfaite. L'âme sœur, aujourd'hui, il y a vraiment cette notion des flammes jumelles. Voilà. Donc c'est cette âme sœur que je vais trouver et qui va me combler entièrement.
Clément ?
Et j'en ai une autre qui me vient comme ça à l'esprit. On cherche son père, on cherche sa mère à travers l'autre. C'est une croyance aussi ou pas ? Ça pourrait en faire partie ?
En fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que là vraiment j'ai relevé les cinq croyances que je vois le plus dans mon cabinet.
D'accord.
Mais bien sûr que je cherche mon père, je cherche ma mère, ça fait partie des scénarios de vie, c'est-à-dire qu'en fait en fonction des parents que j'ai eus, je vais chercher un conjoint qui est soit pareil, soit différent, soit justement absolument pas le même, et c'est de là où je vais construire mon scénario. Mais très rarement en fait, consciemment, on se dit ah, il faut que je trouve mon père pour être heureux dans mon couple.
Non.
Ça se fait inconsciemment, alors que ces cinq croyances que j'ai mises en évidence,
elles sont conscientes.
Celles-là, c'est vraiment voilà, le prince charmant, tout ça, les gens le disent dans mon cabinet. Et c'est à ce moment-là où il peut y avoir des blocages, parce qu'on est déçu, parce qu'il y a un deuil à faire, parce que c'est la réalité de la vie est différente.
Camille Rocher, vous restez avec nous. On va continuer à décoder avec vous ces cinq croyances, celles qui sont le plus ancrées sur le couple, celles qui guident inconsciemment notre vie amoureuse, pour le meilleur, mais parfois pour le pire. On va découvrir ensemble par quel mécanisme ces croyances se mettent en place dans nos têtes, pour surtout les remettre en question ce matin sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Et ce matin, nous sommes dans un sujet un peu intime, puisqu'on se pose cette question. Quelles sont les croyances, les fausses croyances qui nous empêchent d'être heureux en amour? On vous explique tout cela avec Camille Rocher. Je rappelle que vous êtes psychologue, thérapeute de couple et l'auteur du livre « Les cinq croyances qui empêchent d'être heureux en couple » aux éditions Larousse. Alors on va commencer par la première croyance hein, qui vient des contes de fées. On a tout imaginé un jour être Blanche-Neige en se disant un jour... Bah voilà, un jour mon prince viendra. Et parfois, il vient pas. Alors, justement, alors est-ce qu'on peut. Ça vient d'où? Pourquoi on a l'impression qu'un jour un homme va nous sauver? D'ailleurs, c'est plus tellement 2022. Hein,
Ça, c'est intéressant. Ouais, parce que la chronique de Clément a été géniale parce que c'était justement l'objectif de mon livre, c'est aussi de remettre du positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vachement désillusionné sur le couple. Et c'est dommage. Et c'est vrai que les jeunes, quand on les écoute, on se dit, mais là où avant, les petites filles jouaient à la poupée et imaginaient le prince parfait, en fait, aujourd'hui, c'est plus tellement le cas. Et c'est dommage. Mais après, on est évidemment dans une société où le couple est mis à mal.
Mais c'est pas que dommage, peut-être, non, qu'une petite jeune fille
soit plus lucide que nous voilà, quand on était jeune,
et ne se construise pas en disant, il y a un bonhomme qui va venir me chercher.
En fait, je pense qu'on a besoin d'idéaux quand même pour avancer, avoir un but. D'ailleurs, dans le couple, on doit avoir cet axe vertical qui nous mène vers un idéal commun, et c'est là où les ressemblances se rassemblent. Mais il y a vraiment une idée que, oui, évidemment, le prince charmant qui est un idéal ne doit pas être cet idéal que je dois viser. Mais orienter mon idéal vers des valeurs essentielles qui font que le couple va fonctionner, ce qu'on va transmettre à nos enfants si on veut des enfants, enfin voilà.
Et c'est quoi ces valeurs, par exemple ?
En fait, c'est les valeurs qui sont essentielles pour vous. Donc ça va être les grandes valeurs essentielles, c'est la notion de la religion, ça en fait partie évidemment, parce que ça crée des conflits. L'éducation, donc il y a dedans aussi la culture. Quand on a des cultures trop différentes, au bout d'un moment, il y a trop de conflits, on ne se comprend pas. Ça va être aussi est-ce qu'on veut des enfants ou pas. Ça peut être la façon dont on va éduquer nos enfants, mais vraiment en tant que parents, les parents que l'on veut être. Vous voyez, c'est vraiment ce sont des valeurs. Quelle que soit la personne, je ne veux pas y déroger. Même par amour, je ne peux pas y déroger. Voilà. Et ça, c'est un idéal. Mais évidemment, l'idéal du prince charmant, bien sûr que ça n'existe pas. Donc ça va forcément nous faire rentrer dans une impasse.
Et puis le précepte là, un jour mon prince viendra. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu passif. C'est-à-dire, pourquoi on aime croire à cette croyance alors que c'est finalement un truc assez feignant. C'est-à-dire comme si l'amour allait tomber dessus au coin de la rue et que j'ai rien à faire. Enfin, l'amour, il faut aussi le provoquer quelque part.
Complètement. Ouais. Non seulement le provoquer, mais le choisir. Il y a un moment donné, c'est une décision.
On est actif dans cette décision-là.
Bien sûr, le prince, on ne peut pas dire non, en fait.
Il est là, il est magnifique.
Ouais, exactement. Mais évidemment que du coup, on est passif. Et alors que justement, et c'est en ça où l'amour va avancer dans la vie et peut durer, évidemment, c'est un moment donné où je le choisis. Donc oui, c'est bien qu'on ne soit plus dans un idéal, ça va être tout rose tout le temps, et mon amour, mon chéri, tout ça. Non, il y a vraiment des moments, ça va être dur. Il y a même des moments, je vais presque te détester, en fait, voilà. Mais pour autant, je rechoisis, on se rebouge pour remettre une dynamique positive. Et oui, ça peut avancer.
C'est un truc de nana quand même, parce que les hommes se disent pas un jour ma princesse viendra. C'est un truc de femme passive en fait de penser ça, non?
Non. Il y a plein d'hommes qui s'imaginent la femme parfaite, qui est jolie, qui va toujours être douce, qui est super bienveillante avec les enfants. Mais exactement. Mais bien sûr. Mais vous savez, les hommes. D'ailleurs, souvent on me dit, j'imagine que c'est plus les femmes qui boostent les hommes pour venir à ton cabinet. En fait, pas du tout. Il y a énormément d'hommes qui sont sensibilisés à tout ça et qui luttent pour ces idéaux aussi.
Alors vous parlez, on a commencé à en parler tout à l'heure, du mythe de la bonne personne. C'est quoi ? C'est quand on a l'impression, c'est ça, d'avoir rencontré l'âme sœur ?
Exactement. En fait, c'est la personne qui me comble totalement. Mmh. Donc ça... Ce qui est un peu trompeur, c'est que dans la période amoureuse, en général, on la trouve, cette personne-là.
Bah oui, au début.
Évidemment, je suis hyper heureux.
Pendant 6 mois au moins, on a l'impression de l'avoir trouvé. Ouais.
Non, mais vous savez, j'ai un couple, là, pendant 15 ans, ils ont vécu ça. Et vraiment, ils disaient, mais on s'est jamais posé la question, on était hyper fusionnels.
L'osmose totale.
Complètement, l'osmose totale.
15 ans.
Ah ouais, ouais. C'est alors long, hein. Là, après, la chute a été dure.
Donc, si vous voir au bout de 15 ans, c'est que ça va moins bien.
Exactement, ouais, c'est que là, malheureusement, il y a un événement qui fait que ça va moins bien, mais pour autant, leur couple a été pendant 15 ans dans cette espèce d'osmose. Mais bien sûr que ça existe.
Donc il faut y croire ou pas ?
Alors, il faut y croire, mais il ne faut pas viser que ça. C'est-à-dire que là, c'était génial, mais on voit bien qu'après, il y a eu une difficulté. Justement, il a fallu défusionner, parce qu'à un moment donné, on doit exister individuellement. Et c'est là où la confrontation commence un peu, parce que exister individuellement n'est pas toujours en accord avec l'autre.
C'est l'adolescence du couple, en fait.
Exactement.
Il faut se séparer, prendre son indépendance.
Alors, ça vient souvent dans la crise du milieu de vie, hein. Ouais. Mais elle est tout à fait similaire à une crise d'adolescence. Et d'ailleurs, beaucoup de ceux qui ont des crises de milieu de vie n'ont pas fait de crise d'adolescence. Et c'est là
Alors, je suis tranquille, moi. Moi aussi, je suis tranquille.
Bon bah tant mieux.
Alors la croyance, une autre croyance, hein, c'est celle des opposés qui s'attirent. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Oui. Mais il y a quand même un peu de vrai là, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors complètement. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, il y a un axe vertical où là il faut absolument qu'on se ressemble sur ces valeurs essentielles. Sinon au bout d'un moment ça ne tient plus. Quand justement on est un peu moins amoureux, le quotidien est moins sympa. Si je ne suis pas persuadée que j'ai choisi la bonne personne parce qu'on partage ce truc-là, là ça c'est là où c'est trop fragile. Et donc sur les opposés s'attirent. Là, on est plus sur cet axe vertical, horizontal, qui lui va être justement ce quotidien. Et quand on est différent, c'est génial parce qu'on se stimule, on a des idées que nous on n'aurait pas.
On se complète aussi.
On se complète.
Mais il faut le socle des valeurs. En fait, il faut le socle des valeurs. Ouais. Et après, les opposés s'attirent, ça peut devenir vrai.
Eh ben complètement.
Mais s'il n'y a pas
tout
le socle,
mais si on n'a pas suffisamment de ressemblance, pour moi, c'est trop fragile.
D'accord.
Alors, on dit aussi, oui, qui se ressemble, ça semble. Alors, c'est lequel qui est vrai, parce que c'est quand
même. Mais les deux.
Ah, les deux sont vrais.
Ouais, non, mais en
c'est
fait,
ça. Ce socle commun, c'est qui se ressemble, s'assemble d'une certaine façon. Ouais. Et les opposés s'attirent, c'est la richesse qu'on va obtenir avec les différences de l'autre. Quoi.
Voilà.
C'est ça,
dans et en fait, l'idée, c'est de ne pas aller ni dans un extrême ni dans l'autre. Mmh. Si on n'est que dans des opposés, ça ne marche pas. Et si on se ressemble trop, ça ne marche pas non plus. Enfin, voilà, c'est vraiment un équilibre entre les deux.
Il y a un troisième mythe qui est celui de l'amour qu'on retrouve dans les films, dans les livres.
Ouais.
C'est l'amour passionnel. L'amour-passion. Alors évidemment, on en a tous rêvé quand on était ado. Mais une fois adulte, on y croit encore à l'existence de l'amour-passion qui dévore.
En fait, c'est ce qui est, je trouve, très dur, et ça fait partie d'une des majeures demandes de mes consultations aujourd'hui, c'est qu'au bout d'un moment, oui, je rencontre une autre personne, ça fait 10 ans que je suis en couple, on s'aimait bien, c'était sympa, bon équilibre, serein, et finalement, là, tout à coup, je retombe amoureux follement de quelqu'un d'autre. Et là, tout à coup, il y a un énorme conflit entre mon émotion qui tend vers cette croyance-là, qui tend à me dire, mais en fait, c'est comme ça que je suis heureux, parce que c'est euphorisant, c'est comme
ça
qu'on
doit aimer.
Quoi. Exactement. Et en même temps, cet amour peut-être plus rationnel que j'ai choisi, qu'on a construit avec évidemment des contraintes, un quotidien qui n'est pas toujours facile, et il y a un conflit entre les deux. Et c'est là où cette croyance-là de l'amour-passion vient mettre parfois en échec ce couple qui en fait marche bien parce
Donc
que
si
ça,
je,
ça nous
si
enlève.
Si je lis à travers vos propos, ouais. Vous avez plutôt tendance à conseiller à ces patients de revenir à la raison ou vous
en
les
fait,
guider vers la passion ?
Je conseille à mes patients de retrouver une cohérence entre ces valeurs qu'ils veulent et cette émotion qu'ils ont peut-être trop mise de côté. En fait, c'est souvent ce qu'on observe, c'est qu'en fait, finalement, ce couple, je sais pas, je dis de 10 ans comme ça au hasard, mais ce couple de 10 ans là, qui au final marchait bien, mais peut-être qu'on n'a pas suffisamment pris le temps de s'octroyer des petits moments où on fait
Donc
renaître
on part
la
pas,
passion.
On part pas avec un amant, mais on bosse sur son couple en mettant un peu plus de passion dedans, quoi.
En fait, l'idée, c'est de ne jamais quitter son conjoint pour quelqu'un d'autre. On quitte son conjoint parce que le couple ne fonctionne plus et qu'on n'est plus bien en couple. Et ensuite, on se laisse un peu de temps de deuil et après, on est ouvert à rencontrer quelqu'un d'autre. Mais nous, le problème, c'est qu'on voit trop de personnes qui quittent quelqu'un pour quelqu'un d'autre et on les retrouve plusieurs années après parce que, en fait, ils n'ont pas suffisamment travaillé la relation et ils ont été trop motivés par cette fausse croyance.
Ils ont refait les mêmes erreurs. Alors, ouais. La croyance numéro 4 que vous traitez dans votre livre, vous l'appelez le mythe du super-héros. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là ?
En fait, c'est cette croyance où on se dit que même si l'autre, je sais pas, a toujours été infidèle et souvent triste dans sa vie, traîne un peu hein, des passages dépressifs, tout ça, avec moi, il va changer. C'est-à-dire que tout à coup, il va être hyper heureux. Jamais il va me tromper parce que je lui apporte tellement...
Ou elle va changer,
oui,
parce que là
oui,
on parle que
sûr.
Des hommes.
Non, non,
mais
en fait, c'est vrai que je dis
sens,
hein, ouais. Évidemment, évidemment. Ah non, vraiment, et alors là, c'est 50-50. Hein. Franchement, j'ai pas du tout de majorité dans mon cabinet. Non, non, ça tout à fait. Donc c'est il ou elle, bien sûr. Et vraiment, l'idée, c'est de se dire que je suis tellement tournée vers l'autre. Et d'ailleurs, souvent, c'est là où on rencontre des personnes qui ont des problématiques de sauveur, qui vont dire, mais avec moi, je vais tellement lui apporter qu'il voudra ou elle ne voudra jamais me quitter parce qu'elle va se sentir ou il se sentir tellement mieux. Et voilà, et parfois aussi, on retrouve des infirmiers, des médecins, tout ça, parce qu'il y a une problématique de vouloir sauver l'autre, quoi, vraiment.
Mais pourquoi on a ces... Oh là, j'arrête pas de couper mon micro, pardon. Pourquoi on a envie d'avoir des super-héros comme ça, des super-pouvoirs de guérisseurs qui vont sauver notre partenaire ? Qu'est-ce que ça dit de nous, de ces gens-là, en tout cas ?
Alors, très souvent, justement, c'est là, on trouve souvent des enfants derrière ces adultes-là. Un enfant qui, en fait, a été blessé petit, qui a eu justement des problématiques dans le couple de ses parents. Et il a jamais réussi à guérir son père, sa mère, ou il a jamais réussi à se dire qu'il était suffisamment bien pour que sa mère n'ait pas envie de tromper tout le temps son père, ou inversement. Et là, c'est de se dire, ce que j'ai échoué en tant qu'enfant, je vais y arriver en tant que couple. Mmh. Et l'idée que si, avec moi, il ou elle va changer, il me quittera pas, ou elle me quittera pas, parce que je lui apporte trop. Et donc, ça crée une forme de dépendance qui va me rassurer, moi, dans l'amour.
Très bien. Camille Rocher, surtout, vous restez avec nous. On va encore parler d'amour avec vous dans quelques minutes. Et d'ailleurs, nos auditeurs ont quelques questions très pratiques pour vous. Je vous le rappelle, au passage, on vous donne la parole dans Bienfait pour vous. Vous pouvez nous poser vos questions au 3921, notre répondeur, ou encore sur le compte Instagram de l'émission. A tout de suite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On tente ce matin de déconstruire certains mythes amoureux qui ont la dent dure et qui nous empêchent parfois de nous épanouir sentimentalement parlant. On fait le point sur tout ça avec Camille Rocher. Je rappelle que vous êtes psychologue, thérapeute de couple et l'auteur du livre Les cinq croyances qui empêchent d'être heureux en couple aux éditions Larousse. Alors Camille, le dernier mythe que vous évoquez, c'est celui qui conclut les contes de fées. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, on va en parler, mais il y en a qui ont réussi, parce qu'on a des messages, notamment de Freddy Blanchet sur Instagram, qui dit « 31 ans avec ma femme, 24 ans de mariage, et tout va bien que du bonheur. » Lui, chez lui, ça a marché. Ce mythe, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, c'est comme s'il y avait, je sais pas, il y a peut-être eu des conflits quand même. Jamais de conflit, c'est pas possible, on est d'accord.
Non. Et c'est d'ailleurs, peut-être que ces 31 ans de bonheur, c'est grâce à leur conflit. Alors attention, je leur dis toujours, mais c'est important, je ne parle pas de dispute, je parle bien de conflit. La dispute, c'est un règlement de compte, le ton monte, on se blesse, alors que dans le conflit, on est à l'écoute de l'autre, mais on ne piétine pas nos propres besoins, nos propres désirs, nos propres envies, nos propres avis. Et ça, c'est très important de souligner, c'est que le conflit, c'est une discussion qui nous permet vraiment de trouver un résultat, une solution où les deux se sentent compris et entendus dans leurs besoins.
Oui, mais si dans le conflit, à un moment donné, il y a une dispute. C'est-à-dire que
le ton monte.
Bah oui, ça commence à être tendu. Si, même ça, il faut pas faire.
En fait, il faut faire très attention parce que ça peut ne pas bien être grave une fois, deux fois. Le problème, c'est qu'avec le temps, on prend une habitude, on a de moins en moins de filtres dans le couple. Ce qui est vrai. Hein. Là, on faisait très attention au départ. Avec le temps, on a moins de filtres, on fait moins attention. Donc, d'un côté, c'est super parce qu'on est beaucoup plus naturel, et de l'autre, ça peut être un peu dangereux parce qu'on peut se blesser sans oser se le dire. Et c'est là où ça peut tendre à s'éloigner et à se dire oh là là, je veux pas qu'on se reprenne la tête, donc on arrête d'en parler. Et il y en a énormément qui se mettent dans des positions de soumission, à ne plus vouloir parler, à se dire ok, on est d'accord et c'est très bien, c'est pas grave, je fais la croix là-dessus. Et ben non, parce qu'avec le temps, on explose en fait. On se dit mais c'est pas possible, moi je veux retrouver ma liberté. Et cette soif de liberté, ça vient aussi dans des crises, aussi dans cette fameuse crise de milieu de vie.
Donc il faut apprendre à bien s'engueuler en fait, c'est ça le secret.
Exactement. En fait, il faut apprendre à se dire les choses et à oser aller jusqu'au bout. Et tant que je sens que là j'ai pas complètement ma liberté et je sens que l'autre me comprend pas bien, il faut insister. Et c'est dur hein, parce que parfois c'est des conversations qui peuvent prendre du temps, sur plusieurs jours, parfois même sur plusieurs mois, en fonction de l'ampleur du conflit. Mais je crois que justement c'est là où on gagne aussi en confiance, et quand je sens que j'ai été écoutée dans mon besoin, j'aime d'autant plus l'autre.
Mais vous trouvez pas que quand quelqu'un vous dit je comprends ce que tu me dis, déjà c'est la moitié du chemin qui est fait?
Ah bah c'est énorme. Et d'ailleurs on peut comprendre sans être d'accord.
Oui,
il y a énormément de fois dans le couple, on peut se dire je comprends ce que tu me dis, même si moi je ne valide pas, dans le sens où je vois pas pourquoi tu as réagi comme ça, mais je peux comprendre maintenant que tu m'expliques, je comprends que tu agisses comme ça.
Mais je crois qu'on est capable tous de bien se disputer entre guillemets dans les bonnes règles, parce qu'il y a pas toujours dans des disputes, il y a des couples où ils se disputent mais il y a pas forcément un dominé, un dominant. Ouais. Si c'est à égalité et que tout le monde va au bout des choses, les disputes dans le quotidien, les conflits, ça permet quand même de remettre les pendules à l'heure, et dans 20 ans, 30 ans de mariage, on peut avoir besoin de petites remises en question comme ça.
Mais en fait, ça permet au couple de rester dynamique. Et c'est tout l'intérêt. Un couple où, d'ailleurs, il y en a pas mal qui disent on comprend pas pourquoi tout d'un coup il y a une infidélité, on s'entendait tellement bien, on est d'accord sur tout. Et en fait, moi je me dis toujours, c'est pas possible. On est deux êtres humains totalement indépendants l'un de l'autre, on ne peut pas être d'accord sur tout, c'est pas possible.
Ça veut dire qu'il n'y a pas eu assez de dialogue.
Exactement.
À ce moment-là, l'osmose totale pendant 30 ans, ça peut être ennuyeux aussi, franchement, non?
Ah bah complètement. C'est-à-dire qu'il faut toujours, réussir à retrouver une osmose émotionnelle à certains moments de la vie, et même plusieurs fois par semaine, je dirais. Mais c'est une utopie de se dire que ce sera toujours ça, et puis il y aura des périodes plus dures, et ben voilà, c'est comme ça, et il faut qu'on tende à le retrouver toujours.
Alors vous parlez de l'écologie du couple, comment préserver l'environnement de son histoire d'amour, c'est quoi les grands principes de ce concept?
En fait, l'écologie, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société de consommation, et aussi une société de consommation en amour. Et moi, je vois énormément de patients, et d'ailleurs, ce livre s'adresse non seulement à des personnes en couple, mais aussi des personnes célibataires, des personnes blessées par l'amour, et on le voit sur les sites de rencontre, on est quand même dans une consommation où on a nos critères, on a nos croyances, on essaye de valider ce qu'on a dans la tête, et résultat, on est toujours confronté à une réalité qui est différente. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est beaucoup dans cette croyance de l'amour passionnel, où il faut que tu vibres, faut que ta sexualité soit excellente pour rester en couple, sinon ça veut dire que ça marche pas. Si tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'en fait, ton couple d'avant, il est fini. Mais en fait, pour moi, tout ça sont des croyances qui mettent à mal le couple, et au contraire, soyons dans quelque chose de quand je parle de cette écologie,
oui, c'est
que
quoi, alors
et ben il faut absolument avoir se créer de bons souvenirs pour pouvoir puiser dans ces souvenirs-là quand ça va pas vouloir toujours être dans un truc où il faut toujours plus, toujours mieux, mais savoir aussi se contenter de ce qu'on a, du beau qu'on a, savoir s'émerveiller, savoir s'arrêter, savoir sortir la tête de nos portables. Voilà, vous voyez, c'est vraiment ce concept-là où on plante en fait petit à petit et on va puiser de ces racines-là qu'on a et ça nous évite d'être toujours dans acheter du nouveau, du plus, du mieux.
On a Manon sur Instagram qui nous demande « Votre émission me fait réfléchir, est-ce qu'on peut encore lire des contes de fées à nos enfants ou est-ce que ça leur donne des idéaux impossibles à atteindre ?»
Alors, les contes de fées pour les enfants, c'est génial. Ah, pourquoi ? Parce que ça permet à l'enfant de vivre toutes les émotions qu'il vit au quotidien, tout ce panel d'émotions. Donc c'est super pour ça. Maintenant, c'est vrai que c'est intéressant parfois de lui demander, tu penses qu'il s'est passé quoi après avec Blanche-Neige et le prince ? Tu crois que ça va devenir quoi leur vie,
la fin du conte.
Exactement,
en fait,
d'en parler ensemble et de se dire de parler tout ça. Mais faisons aussi rêver nos enfants, ils en ont besoin.
Et on ne peut pas lui dire que la princesse va divorcer, tout ça, c'est affreux.
Mais c'est horrible. Et après, ils n'ont pas envie d'être adultes. Il faut leur donner l'envie d'être adulte, bien sûr.
Adopter les sept nains, ils ont beaucoup d'enfants. Enfin, je sais pas.
Vous pouvez coucher avec un sept nain. Non, c'est affreux.
Vous êtes toujours coquine, vous. Hein,
mais non, mais c'est vrai. Il faut faire rêver nos enfants. Une dernière question de Magali sur Facebook. Ma sœur est en couple depuis 3 ans avec un rustre, alors qu'elle est très chic. Il est mal élevé, alors qu'elle est super classe. Bref, ils sont très mal assortis. Je crois pas du tout à leur histoire. Est-ce que je peux lui en parler?
Moyen.
Non, je pense que ça, c'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est touchant parce que une fois, j'ai eu des parents qui sont venus pour leur fille en disant on ne veut pas être intrusif, mais on est hyper inquiet, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller et tout. Je trouvais ça hyper touchant.
Ils détestaient leur gendre, c'est ça?
En fait, ils se disaient notre fille, elle se trompe complètement.
Elle mérite mieux.
Exactement. Ouais, elle ne va pas y arriver. Bon, bref. Donc, c'était hyper touchant. Mais je vais faire du coup la même réponse que je leur ai faite. Peut-être qu'il faut qu'elle passe par là. Peut-être qu'il faut qu'elle-même se rende compte de ses limites. Peut-être qu'en même temps, elle va découvrir quelque chose de peut-être plus simple,
mais
finalement,
qu'elle aspire.
Voie,
en disant
alors, moi, je trouve ça toujours bien. Et d'ailleurs, en termes d'amitié, de confiance, c'est toujours bon de dire écoute, moi, je suis un peu inquiète de ça, ça ou ça. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu y as réfléchi? Mais après, il faut laisser la personne vivre. Et il y a plein de couples qui fonctionnent hyper bien alors qu'on n'aurait jamais misé dessus. Vous voyez, et ça, c'est le mystère, vraiment le mystère de l'amour.
Eh bien, merci beaucoup, Camille Rocher, nous avoir accompagné ce matin pour cet éclairage sur ces croyances amoureuses qu'on nous met dans la tête bien souvent dès l'enfance et qui peuvent, on l'a vu, parfois perturber grandement notre vie de couple. Merci pour cet entretien.
Merci Camille. On va à présent changer de thématique et on vous propose une découverte ce matin. Savez-vous ce qu'est la sonothérapie? La thérapie par le son, cela permet notamment de lutter contre le stress. La sonothérapie, c'est notre dossier bien-être du jour.
Europe 1, 11h, 12h30. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est le moment d'accueillir notre invité suivant sur ce dossier consacré à la sonothérapie. Bonjour Swan Gong.
Bonjour.
Alors vous êtes musicien professionnel, sonothérapeute et vous êtes le fondateur de Zen & Sounds. Il s'agit de quoi en quelques mots ?
On a fondé Zen & Sounds avec Ellie il y a quelques années pour pouvoir créer des centres complètement dédiés à la sonothérapie, ce qui n'existait pas du tout en Europe. Donc on a fondé plusieurs centres afin de pouvoir proposer cette expertise-là. Jusque-là, on pouvait amener les gongs et les bols dans des festivals de méditation ou de yoga ou des salles de yoga, mais il n'y avait pas de lieu complètement dédié pour ça. C'est pour ça que nous sommes dédiés à ça.
Alors vous êtes en ligne avec nous ce matin pour tout nous expliquer sur la sonothérapie, une pratique qui fait de plus en plus d'adeptes. Mais ce n'est pas nouveau en réalité, la sonothérapie. C'est même très ancien comme pratique. Ça remonte à quand précisément ?
Ah oui, vous avez totalement raison, c'est tout à fait ancestral. On a trouvé le premier gong au Népal il y a un peu plus de 8000 ans, donc ça commence à remonter. Hein. C'est connu comme étant la plus ancienne forme de méditation de groupe au monde. C'est très très ancien. C'est resté pas mal sur l'Himalaya pendant plusieurs milliers d'années. Et puis plus récemment, c'est venu dans nos contrées occidentales et c'est en train effectivement de s'implanter un petit peu partout dans la société comme le yoga l'a été.
Et à l'époque, on l'utilisait pour guérir quoi ?
On avait déjà cette notion à l'époque, les guérisseurs, les soigneurs de l'époque avaient déjà cette notion du fait que la vibration a cette vertu de calmer le stress, de calmer les angoisses. L'être humain étant un animal assez stressé de nature, c'est vrai que la sonothérapie a cet avantage depuis toujours d'être très très calmante. Et c'est ce qu'ont ressenti déjà les gens à l'époque.
Alors vous êtes musicien professionnel, donc on comprend votre appétence pour la musique, mais vraiment les bienfaits de la sonothérapie qui sont plutôt des vibrations là, comment vous avez découvert ça, vous, en pratique ?
J'ai été faire pas mal d'académies dans le monde avant de monter ma propre méthode, puisque maintenant j'ai une académie et je forme beaucoup beaucoup de monde. Je viens juste d'en filer une de formation d'ailleurs il y a quelques jours. J'ai découvert ça très très tôt en fait, les gongs. Au départ j'étais musicien, effectivement j'étais batteur même, très jeune. Et puis très jeune j'avais un gong derrière moi parce que j'étais tellement fan des Pink Floyd et de Led Zeppelin qu'il me fallait absolument un gong derrière moi pour jouer. Je me suis vite rendu compte que l'aspect vibratoire rentrait vraiment à l'intérieur du corps et avait des vertus qui étaient bien au-delà de l'instrument de musique. On sait maintenant par des études scientifiques que la vibration est quelque chose qui calme énormément. On sait que ça fait vibrer toute l'eau du corps, l'être humain est plein de liquide, et donc ça a cette tendance à calmer le rythme vibratoire des cellules, chose qui est probablement la cause principale du stress, la survibration cellulaire. Donc du coup ça a cette fonction de nous calmer le bouillonnement interne. Donc moi j'ai découvert ça très tôt et ça m'a fasciné.
Alors Swan, la sonothérapie, on l'a compris, hein, est basée sur le son. Comment le son peut-il avoir un impact sur notre corps? On se dit que ça rentre dans nos oreilles, qu'en gros ça s'arrête là, mais j'ai l'impression que ça va beaucoup plus loin. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer?
Oui, il y a l'aspect auditif qui est très agréable parce qu'on entend des sons qui sont assez étonnants, mais c'est on va dire pas l'effet principal. L'effet principal, on appelle ça sonothérapie, on peut appeler ça également la vibraponcture. C'est un peu l'acupuncture des vibrations. Donc en fait, il y a ça de commun avec l'acupuncture qu'on travaille avec les méridiens, les canaux énergétiques, les fascias, et au lieu d'y aller avec des aiguilles, on va y aller avec des fréquences et on les choisit de surcroît, ce qui est très intéressant thérapeutiquement pour le coup. Alors ça marche avec toute l'eau du corps. Ça rentre en vibration, on marche dans les méridiens effectivement également, et les effets que ça va avoir sont des effets très relaxants, c'est pour ça qu'on appelle ça la relaxation par le son, très très déstressant. On est tellement dans des sociétés pleines de tumultes, les gens ont vraiment besoin de se calmer. Donc les effets principaux sont ceux-ci. Maintenant il y a des effets thérapeutiques beaucoup plus précis également.
On va voir ça dans un instant, mais avant de se lancer justement dans les éventuels bienfaits thérapeutiques, est-ce qu'il y a des contre-indications peut-être à la sonothérapie?
Ah oui, complètement. Ça, on enseigne ça. C'est très important de savoir un certain nombre de choses qui sont parfaitement de l'ordre du logique. Par exemple, quelqu'un qui a un pacemaker ne va pas aller faire de sonothérapie, c'est totalement contre-indiqué. Oui. Tout simplement parce que les vibrations peuvent dérégler son pacemaker. Et là, on peut pas prendre ce type de risque. On sait également que les femmes enceintes de moins de 4 mois et de plus de 8 mois ne doivent pas en faire. Moins de 4 mois, ça a une logique. Il faut que le fœtus s'accroche. Plus de 8 mois, soit si vous avez peut-être une formation de sage-femme, vous pouvez faire un bain de gong et provoquer un accouchement également. Mais disons qu'entre 4 et 8, on peut se le permettre. C'est des soins un petit peu particuliers qu'on va aller faire pour deux personnes, hein, puisque la personne a une autre personne à l'intérieur. Donc c'est des soins qui sont très beaux. Mais donc c'est une contre-indication. On essaye d'éviter également, on va dire, les cas épileptiques très graves et les cas asthmatiques très graves. C'est des choses qui peuvent déclencher des crises parfois. Donc ça, c'est vraiment les contre-indications générales qu'on connaît déjà.
Eh bien, soin de gong, on va se retrouver dans un court instant. On va continuer notre immersion de ce matin dans les bienfaits de la sonothérapie. On vous fera même peut-être écouter quelques sons qui font du bien, qui peuvent nous détendre. On va faire ensemble un petit bain sonore. Vous l'avez compris ce matin, on ne vous offre que de bonnes ondes. Alors restez avec nous sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bienfait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à midi et demi. C'est votre émission bien-être tous les matins. Nous sommes toujours en train de vous faire découvrir les bienfaits de la sonothérapie avec notre invité, c'est Swan Gong. Alors je rappelle que vous êtes musicien professionnel, sonothérapeute, et dans votre centre de sonothérapie, vous prenez en charge des personnes qui ont quel type en fait de pathologie ou de mal-être? J'imagine que ce sont des patients stressés ou déprimés, c'est bien ça?
On a vraiment tous les cas de figure. On a effectivement des gens qui sont assez stressés, puisque ça, c'est quand même le tronc commun. C'est d'ailleurs, quand on considère un petit peu l'origine des mots, il y a très très souvent des pathologies qui découlent du stress. On est dans des sociétés un petit peu tumultueuses avec ça. L'être humain n'a pas vraiment le temps de prendre du temps pour soi, et donc de ce fait, on est assez stressé. Donc il y a pas mal de choses qui découlent de ça. Bon, de ce fait, on a beaucoup de soins qui sont liés à ce type de problématique. effectivement de stress et de déprime. Mais on a vraiment tous les cas de figure, c'est-à-dire on va avoir autant des problématiques de l'ordre du diabète que du Parkinson, que de l'Alzheimer, de la sclérose en plaques. On va avoir des gens qui ont tout type de pathologies physiques, psychologiques, émotionnelles, énergétiques. On voit vraiment de tout.
D'accord. Et je crois que ça peut être une solution, la sonothérapie, contre des problèmes de sommeil. Comment ça agit dans ce cas-là? Est-ce que c'est vraiment efficace d'ailleurs pour lutter contre ces troubles-là?
On a pas mal de bons résultats au niveau du sommeil, effectivement, puisqu'on arrive à générer des ondes cérébrales avec des diapasons extrêmement précis qui permettent de générer des ondes qu'on sécrète et qu'on produit normalement nous-mêmes par le cerveau, mais qui ne sont pas assez stimulées. Donc grâce à certaines fréquences, on arrive à stimuler donc les facteurs de l'endormissement, comme l'onde alpha par exemple, puis les facteurs de calme comme l'onde delta ou l'onde theta, qui sont les ondes plus proches de l'hypnose ou de la méditation, et qui nous servent vraiment à travailler, soit parce qu'il y a deux types d'insomnie. Alors, l'insomnie, on n'arrive pas à s'endormir, et l'insomnie où on se réveille en sursaut plusieurs fois dans la nuit. Donc ça, c'est des choses qui ne se traitent pas vraiment de la même manière, mais c'est vrai qu'on a des résultats assez probants sur ces problématiques-là.
Alors justement, si on a du mal à dormir, si on est stressé ou un peu déprimé, il faut en faire de temps en temps ou très régulièrement des séances de sonothérapie?
Ah oui, alors ça c'est toujours une question importante. Moi je dis pas il faut, en fait je demande toujours aux gens de s'écouter, de voir un petit peu. Disons qu'un massage sonore ou un gong baf, un bain de gong vont avoir des effets sur 2 à 3 semaines, ce qui va permettre d'être assez déstressé, assez calme et assez zen, on va dire, pendant cette période. Et puis ensuite, les gens s'écoutent et voient s'ils ont le besoin de revenir. Ça toutefois c'est quand même pour des soins qui sont relativement bien-être. Hein. Si on rentre dans quelque chose de plus pathologique, on va forcément devoir conseiller souvent aux gens de revenir un petit peu plus souvent.
Alors justement, puisque vous parlez de choses plus pathologiques aujourd'hui, je crois que la sonothérapie est même utilisée dans certains hôpitaux, établissements hospitaliers en tout cas. C'est pour accompagner quel type de malade ou de pathologie, en tout cas dans ce qui se fait déjà aujourd'hui?
Alors c'est pas vraiment quel type de malade ou de pathologie, c'est-à-dire que c'est utilisé souvent avant et après. Je vais prendre un exemple, quelqu'un qui va devoir avoir une chimiothérapie, on va absolument pas être dans la substitution de soins, on est dans l'accompagnement nous tout le temps. On nous entendra pas dire faites ça plutôt que ça, ce qui est complètement pour moi pas du tout cohérent ni mesuré. Complètement. On se substitue à aucun traitement, nous, jamais.
Bien sûr.
Par contre, effectivement, déstresser quelqu'un avant d'aller faire un soin et voire même détoxer certains produits par la suite qui sont peut-être un peu envahissants, ça, c'est quelque chose, des choses sur lesquelles on peut intervenir. Après, en hôpital, il y a également des applications qui sont de l'ordre de l'accélération de cicatrisation, de l'ordre de couper certaines douleurs. C'est des choses qu'on fait assez régulièrement. Oui.
Alors, Swan, racontez-nous comment ça se déroule une séance de sonothérapie, un bain de gong.
Je crois que Julia est très tentée.
Moi, j'ai très envie de le faire. J'ai déjà essayé parfois dans des cours de yoga un peu, et je trouve que ça fait tellement de bien.
Ah oui, c'est extrêmement relaxant. C'est pour ça que c'est en train de devenir très universel. Ça convient exactement à tout le monde. J'ai même quelqu'un qui a été un peu cassé par un accident de voiture un peu grave et qui peut pas faire de yoga, là, peut le faire. On a beaucoup d'handicapés, beaucoup de gens qui ont des soucis, qui viennent nous voir. Donc ça, c'est vraiment bien. Comment ça se passe? Alors, il y a vraiment deux grands types de grandes possibilités de sessions comme on a. C'est effectivement les gong baf, les bains de gong, où là, on va s'allonger au sol sur un matelas confortable. C'est une session de groupe. Et là, il y a beaucoup de grands gongs. Nous, on fait des gongs baf avec entre 15 et 25 gongs dans la pièce, donc c'est très impressionnant.
C'est ce qu'on entend un peu d'ailleurs en fond sonore, hein, je crois, là.
Voilà, exactement. Donc c'est puissant, ça vous nettoie vraiment. On appelle ça la douche intérieure en thérapie. Hein. Mm-hmm. Ça nettoie vraiment tout le tumulte, toutes les angoisses qu'on a sous la cage thoracique. Il y a vraiment une grande liberté de circulation après une session comme ça.
Et
ensuite,
excusez-moi,
nous avons les massages sonores.
Ah,
je vous en prie.
Non, c'est quoi la différence? J'allais vous poser la question entre le massage et le bain.
Le massage sonore est une technique individuelle. Ah. C'est-à-dire que là, on va être sur une table de massage, on reste habillé, c'est le grand avantage de la sonothérapie. Et puis, on va aller poser directement sur le corps les bols tibétains, les diapasons thérapeutiques, sur des problématiques extrêmement précises, puisque là, c'est un soin individuel. Donc, on peut vraiment aller sur les soucis que les gens ont individuellement chacun.
Donc, j'ai bien compris, c'est quelque chose qui peut se faire seul, pour le bien-être, pour éventuellement une visée thérapeutique. Ça peut se faire également à plusieurs. Donc, je pense qu'on peut comparer ça, et vous me direz si j'ai tort, mais à la méditation finalement, parce que la méditation c'est pareil, on peut faire de la méditation en groupe ou seul chez soi, et les bienfaits sont différents mais sont importants.
Ah, tout à fait, absolument. C'est une méditation sonore, hein, d'ailleurs. On peut s'inscrire dans cette mouvance-là, avec grand plaisir, d'ailleurs. Mais oui, c'est une méditation. Alors, la petite différence qu'il va y avoir, du même titre que le yoga, il y a certaines personnes qui peuvent pas en faire parce qu'ils ont des problèmes physiques. La méditation, il y a des gens qui souffrent également de ce qu'on appelle la superidéation, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de penser tout le temps et qui ont beaucoup de mal à lâcher prise. Donc, ils n'arrivent pas à rentrer dans cet état vraiment de lâcher prise. Méditatif. Avec la sonothérapie, le gros avantage, c'est que vous avez tellement rien à faire, vous vous allongez, c'est les gongs qui travaillent. Et là, c'est très intéressant parce que même des gens qui n'ont absolument aucune aptitude vont ressentir des effets extrêmement positifs au bout d'une heure.
Est-ce qu'on est obligé d'en faire dans un centre avec un professionnel comme vous ou alors on peut faire de la sonothérapie chez soi? Comment? Et si oui, comment on s'y
Léonie
prend?
Léonie, pardon, c'est le nom de ma fille, j'ai failli vous appeler par le nom de ma fille.
C'est Julia, c'est
Julia. Elle voulait prendre ses casseroles chez elle pour tester
Mais est-ce que vous parlez de bol? Si je prends mes bols du matin, ça marche pas?
Ah, pas du tout, non. Ah,
justement, les bols, on va en parler, c'est que ce sont des bols tibétains qu'on entend là juste derrière nous. Comment vous les utilisez en sonothérapie? C'est quoi l'indication du bol tibétain? C'est très agréable à écouter, en tout cas.
Il y a beaucoup de sortes de bols. Il y a des bols qui sont destinés au massage sonore, qui ont une vibration très verticale, qui sont donc faits pour rentrer dans le corps, et des bols qui ont une vibration très horizontale, qui sont plus pour la méditation, ceux que vous entendez, comme vous disiez, à la fin des cours de yoga, par exemple. C'est très relaxant dans les deux cas. La différence, c'est que le bol thérapeutique qui est fait pour les massages sonores a cette vocation à rentrer à l'intérieur du corps. On les utilise donc l'un ou l'autre, suivant le type de session qu'on va utiliser. Après, il y a des fréquences différentes qui vont être accordées suivant la partie du corps. Par exemple, on met les graves vers le bas du corps, les aigus vers le haut. Hein, si vous voyez par exemple quelqu'un qui met un bol à l'envers sur la tête et qui tape dessus, enfuyez-vous, ça n'est pas du tout comme ça qu'on les utilise.
On va les écouter juste quelques secondes.
Vous êtes bien sur Europe 1.
Julien aime beaucoup. Je crois que vous êtes très réceptive. Hein. C'est dingue. Ouais, les vibrations, ça marche bien.
Ça me calme, ça me fait un bien fou. Nous avons une question de Marc dans le 94 qui nous a écrit sur Facebook. Il dit, est-ce que c'est cher une séance de sonothérapie? Il faut compter combien en moyenne pour un bain sonore?
Alors, les bains de gong, nous, on les pratique, on est pas cher, on essaye de vraiment avoir un côté accessible à toutes les populations, ce qui est très important. Hein, on n'est pas du tout dans l'élitiste. Donc, un bain de gong qui dure 1h15 est à 28 euros chez
nous. Ah oui, c'est tout à fait accessible. C'est agréable d'entendre ça.
Oui, c'est accessible à toutes les bourses et c'est vraiment bien. Et on a des prix étudiants, des prix chômeurs. On a vraiment envie que tout le monde puisse bénéficier de ça. Ouais. Après, un massage sonore individuel, qui est vraiment une technique individuelle et qui va durer une bonne heure avec le sonothérapeute seul, là, on est plus suivant les centres, entre 70 et 90 euros.
Mais vous savez quoi, on a déjà tenté l'expérience dans Bienfait pour vous, puisqu'on a Cécile Coumeau, notre chroniqueuse, qui était venue tester un massage sonore chez vous, justement, et ça nous avait donné envie, justement, d'en savoir plus. Je vous propose juste une dernière question de Ludivine sur Instagram. Vous pouvez retrouver, bien sûr, le reportage de Cécile sur notre podcast sur europe1.fr. Alors, Ludivine, sur Instagram, nous demande, peut-on utiliser la sonothérapie pour arrêter de fumer?
Ça peut être une possibilité. Effectivement, on a quelques protocoles qui marchent pas mal sur les addictions. Alors, pas spécialement que la cigarette, parce qu'on a tous des addictions. L'être humain est très addictif depuis toujours. Donc, on a des protocoles pour essayer de couper les mécanismes d'addiction. Ça marche à peu près, on va dire, très très bien sur une personne sur trois. Après, c'est des protocoles qu'on applique. Ça dépend jusqu'où est ancrée l'addiction. On n'a pas de garantie absolue, comme toujours.
Très bien. Merci beaucoup, Swan Gong, pour toutes ces explications. Sur les bienfaits de la sonothérapie. On a bien vibré avec vous. C'était un entretien très apaisant. Merci.
Oui, merci Swan. Maintenant, nous allons lancer la partie tendance de Bienfaits pour vous. Il y aura d'abord les prescriptions lecture jeunesse de Nathalie Le Breton. Aujourd'hui, elle va nous guider vers des livres parfaits si vous avez un enfant hypersensible. Ensuite, avec Sophie Braffman, notre experte mode, on va parler du retour inattendu d'un accessoire d'hiver qu'on pensait oublié à jamais. La cagoule. Oui, c'est vrai, c'est incroyable. Mais la cagoule, c'est tendance en 2022. Et enfin, on va terminer avec Philippine Darblay. Elle a testé pour nous les infrarouges qui viennent au secours de notre peau. Un très joli programme, donc restez bien avec nous sur Europe 1.
Pour vous, sur Europe 1.
Europe 1,
11h30.
Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être Feel Good. Vous le savez, dans votre émission, dans notre émission avec Julia Vignali.
Merci.
C'est la leur ou la nôtre, les deux, écoute. Notre seul but ici, c'est de vous chouchouter, de vous faciliter la vie. Et donc, on va démarrer avec les conseils lecture pour nos enfants de Nathalie Le Breton. Bonjour Nathalie.
Bonjour à toutes.
Vous avez déniché des livres parfaits pour des enfants avec une spécificité. J'ai réussi à dire laquelle.
Ben, l'hypersensibilité, on les appelle aussi enfants hyper émotifs, ça reste encore mal vu alors que ce sont des talents et des enfants formidables.
Eh bien ensuite ce sera à votre tour Sophie Braffman. Bonjour.
Oui.
Sophie.
Bonjour Julia.
Alors on n'aura pas froid avec vous aujourd'hui hein.
Non, je vais vous parler de la cagoule parce qu'elle n'est pas réservée qu'aux enfants ou aux soirées SM. Voilà, vous allez voir que la cagoule, eh bien elle est très tendance.
Ah, bah, ça m'arrange parce que moi je ne vais plus aux soirées.
Bah, justement,
j'ai encore vous allez retourner.
Un petit doute mais on verra ça tout à l'heure. Et enfin on terminera avec vous Philippine Darblay. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez testé quelque chose pour nous, vous avez un travail difficile, hein, quelque chose qui fait sans cagoule, c'est quoi ?
Sans cagoule, j'en peux plus de cette vie tellement dure, j'ai testé un sauna infrarouge, la coqueluche de la rentrée.
Ah oui ? Pour notre peau, hein,
c'est voilà, ça, pour notre beauté. Pour détoxifier.
Génial, parfait Philippine, on vous retrouve dans quelques minutes, mais tout de suite, on va aider nos enfants avec des livres dans Bienfait pour vous.
Europe 1, Bienfait pour vous. Les tendances.
Nathalie Le Breton, on attend toujours vos conseils lecture avec une grande impatience. Avoir un enfant hypersensible, c'est souvent un sujet préoccupant pour les parents, car dans notre société, on fait souvent passer ses enfants pour des faibles, des fragiles, voire des victimes. Alors, c'est pas évident pour la confiance en soi. Et heureusement, les livres affichent un parti pris totalement opposé en choisissant, au contraire, de les valoriser.
Et qu'est-ce que c'est bien, ouais. Contrecarrer l'image, vous savez, du héros Bruce Willis, l'homme fort qui assure dans toutes les... et qui ne montre surtout jamais ses sentiments. Donc oui, les livres redorent le blason des enfants hypersensibles pour le plus grand bonheur et le bienfait de leur famille. Alors je voulais commencer avec Paul, superbe livre de d'Alice Brière-Raquet, avec les illustrations de Syl. Regardez, c'est joli avec ce petit bonhomme plein de couleurs. Parce que finalement, on se trompe très souvent. Les enfants hypersensibles ne sont pas des enfants timides. Mmh. On a tendance à mélanger les choses. Ouais. Ce sont des enfants, comme nous le dit le livre, qui ont une hyperpigmentation de la peau. C'est-à-dire que tout se voit. Ils se prennent en pleine face tout ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Et le problème, c'est que l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc ce sont, oui, des enfants qui réagissent comme Paul. On lui dit un petit nom, il devient tout blanc. Ou alors, s'il a une colère, il devient tout vert. Ce sont des enfants qui pleurent si le voisin d'à côté se fait disputer. Ce sont des enfants qui pleurent si jamais il y a une joie énorme à partager. C'est ce qui arrive à Paul. Alors ce Paul, il se dit, il faut une armure en or, tant qu'à faire, pour se blinder. Alors il part chercher dans le monde, mais dans le monde, il y a plein d'autres nuances dans cette palette de couleurs et d'émotions. Et donc, il ne va pas trouver l'armure, mais il va trouver la solution. Il va devenir peintre, c'est-à-dire qu'il va aider les autres à décoder tout ce qui est si beau et magnifique autour de nous.
Alors le problème finalement avec ces enfants, ce sont surtout les réactions des autres qui peuvent s'interposer sous prétexte de l'aider, le protéger et en définitive, le pousser à être différent de ce qu'il est. C'est ça ?
Exactement. Et cet enfant, il se sent souvent incompris, justement, parce qu'on ne perçoit pas. On dit il est timide, on ne perçoit pas. Et donc, il a tendance à s'isoler. Et c'est ce contre quoi luttent les livres. L'histoire formidable d'une hérissonne bien sensible. Et j'aime bien l'idée qu'on dise bien sensible plutôt que hypersensible. Un livre d'Ulrika Kester pour les Dagères du Bas. Une petite hérissonne qui a trouvé une mûre magnifique à grignoter, juste parfaite. Et là, tout le monde s'en mêle. Il y a le renard qui passe, il y a le corbeau. Dis donc, ça va pas. Il faut que tu te prennes en photo avec ta belle mûre. Dis donc, ça va pas. Tu la transportes avec beaucoup de précautions. Et donc, finalement, tout le monde s'en mêle. Elle s'inquiète. Elle veut faire comme les autres lui disent de faire. Elle ne s'écoute pas elle-même jusqu'au moment où effectivement, elle va rencontrer un canard. Elle s'est dit, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? Il veut juste manger avec elle. Et là, elle va pouvoir s'épanouir avec sa mûre, sans tenir compte de l'avis des autres. C'est une question de confiance en soi pour ces enfants-là.
Et ce livre, il sert à ça.
Exactement.
Est-ce que vous avez un autre livre pour les aider, ces enfants, à mieux gérer ces émotions envahissantes au quotidien ?
Ah oui, parce que ces enfants ont tendance à tout voir en noir. Donc il faut changer de focale avec eux. Excellent livre, un peu pratique. Et vous l'avez entre vos mains, ça s'appelle « Mazette, non pas est trop sensible, mais Mazette est très sensible ». Livre d'Agnès Ledigue et Frédéric Pillot au Père Castor Flammarion. Superbe histoire de cette Mazette. Et quand vous lisez son histoire, dans le premier sens qui est là, eh bien voilà, c'est une jeune fille qui est sensible, c'est tout. Le seul problème, c'est qu'effectivement, elle pleure et qu'on voit ses larmes. Or, les larmes, les autres la pointent du doigt, parce que c'est quand même extrêmement ridicule de pleurer comme ça. C'est complètement idiot, vous avez compris le principe. Mmh. Nous arrivons à la fin, et alors, donc effectivement, on va relire maintenant avec les mêmes mots, les mêmes images, l'histoire dans l'autre sens.
Ah, génial, c'est marrant.
C'est magnifique. Et vous allez voir que ce qui était un défaut, vécu et présenté comme un défaut, devient une qualité.
Bah oui, les autres se moquent d'eux. Qu'est-ce que c'est astucieux, ça ? On peut lire le livre dans les deux sens.
Exactement. Et là, vous avez la version pleine du verre. C'est-à-dire que ce qu'on dit à la petite fille ou au garçon qui lit ce livre, c'est que tu vois, t'as du courage de montrer tes émotions. C'est bien d'être ému. Aujourd'hui, c'est une qualité dans la société. Et donc, elle va, et les enfants vont, grâce à ce livre, changer, là aussi, et se dire, bah non, finalement, je suis pas nulle, et je peux vivre ça et éclater avec ma personnalité telle que je suis, différent des autres, comme tous les enfants finalement.
Sophie Braffman, vous qui avez des enfants, vous trouvez pas que c'est génial lecture à deux, dans deux sens comme ça
et... Ah bah, je trouve ça très astucieux. Je trouve que les dessins en plus sont très beaux et vraiment ça donne envie de le lire à voix haute avec son enfant.
Ouais, et c'est intelligent, c'est pertinent et je trouve que c'est bien parce que ces livres reflètent à quel point aujourd'hui nous considérons nos enfants comme des êtres pensants et c'est plutôt très fort. Quoi.
Et donc ce dernier s'appelle Mazette et pas trop, mais très sensible chez Père Castor. Et moi je sais pas, mais mon sixième sens me dit qu'on peut retrouver certains de ces chouettes bouquins dans la sélection de vos box mensuelles.
Seriez-vous une hypersensible ?
Notice-autant.fr,
voilà.
C'est génial.
Une sélection de livres pour enfants.
Ah bah, vous auriez aimé avoir celui-là quand vous étiez petite, hein, je suis sûre, parce que vous êtes sensible. Vous,
moi, je suis très sensible, mais je suis blindée grave, comme on dit. Alors, je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, j'aurais eu à cœur d'avoir un livre, qu'on me lise un livre comme ça. Vous pensez que c'est pour les enfants de quel âge, Nathalie ?
Alors, celui que vous avez, ouais. Mazette, il vous accompagne à partir, on va dire, 5 ans, d'accord ? Facilement jusqu'à 8 ans. Ouais. Justement à cause de ce principe de lecture dans un autre sens, parce qu'on fait appel à l'intelligence de ces enfants-là. Les autres sont sensibles. Paul, il est pas mal, parce qu'il explique enfin aux adultes qu'est-ce que c'est que cette hypersensibilité. Tout le monde mélange toujours en disant « Ah, il est trop timide, ça n'est pas ça ».
Donc c'est de la lecture jeunesse qui est utile aussi pour les parents, finalement, pour nous faire comprendre des choses à nous. Hein,
mais
parfois
oui, changez-vous aussi bien de focale, parce qu'on se sent gêné d'avoir des enfants comme ça, alors qu'aujourd'hui, même si on a tendance aujourd'hui à dire « Allez, exprime-toi, dis-moi ce que tu penses. Hein, les émotions, c'est très, très à la mode. Mais on se dit que dans la vie, il ne sera pas blindé. Or, il n'y a pas besoin de se surblinder.
Très bien. Merci Nathalie. Beaucoup, Nathalie, pour tous ces conseils. Ces livres qui nous offrent des mots, M-O-T-S, hein, pour des mots ou les petites tracades de nos enfants. On a bien noté toutes les références. On vous les remettra de toute façon sur nos réseaux sociaux. Allez, on va poursuivre avec encore des bons plans, rien que pour vous. Il y aura déjà les conseils mode de Sophie Braffman. Bon, je ne suis pas certaine avec sa tendance du jour qu'on soit très séduit, hein, mais qui sait ?
Vous allez adorer.
Voilà,
Mélanie, vous
avec
allez
elle,
voir.
Avec vous, de toute façon, on a toujours des surprises, Sophie. Donc la cagoule, hein, qui sait, on va s'y mettre. Vous allez nous parler de tout ça pour cet hiver. Et puis, il y aura aussi la chronique de Philippine Darblay. Elle a testé pour nous des soins à base de luminothérapie, plus particulièrement un sauna d'infrarouge pour lutter non pas contre le blues hivernal, mais pour faire du bien à notre peau. On va tout vous expliquer sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à 12h30. Et notre séquence tendance continue avec nos chroniqueuses du jour, toujours avec nous en studio. Et à présent, on va se mettre au chaud grâce à vos conseils mode, Sophie Braffman. Non, mais sérieusement. La mode est à la cagoule cet hiver. C'est pas une blague, mais on parle bien de cet objet affreux qui nous grattait et qu'on détestait quand on était petit.
Vous allez adorer la cagoule. Ah. Vous allez même retourner dans les soirées grâce à cette grande musique de foot à cagoule qu'on apprécie. Merci beaucoup. Évidemment, c'est un petit clin d'œil à Philippine qui est très musicale. Et je me suis dit que voilà, Fatal Bazooka, il fallait le citer ce matin. Donc, foot à
une
cagoule.
Référence.
Voilà, une grande référence musicale. Eh bien, cette cagoule présente un certain nombre d'avantages, ne serait-ce que d'aller déjà à tout le monde et à toutes les morphologies.
Non, mais franchement, on n'a pas l'air complètement tarte avec une cagoule.
Alors, pas du tout. Même s'il vous faudra définitivement, Mélanie, renoncer aux chignons bananes, aux attaches loose de type choucroute, pour continuer de filer la métaphore culinaire, place au crâne d'œuf avec la cagoule. Alors, vous allez devoir porter le cheveu plat et peigné, hein, quand même, parce que sinon vous allez prendre un gros risque capillaire, celui de sortir totalement décoiffé de cette aventure. Mais cet accessoire fétiche, mi-capuche, mi-bonnet, est la pièce totalement indispensable de notre hiver. Alors oui, on a besoin de se faire du bien, on a besoin de se sentir au chaud, de replonger en enfance, en mitoufler, se protéger, et rien de tel pour cela que la cagoule. Alors j'ai posé cette question tout à fait cruciale à une personne d'importance, puisque ce week-end se tient le grand salon Who's Next, qui est
de
un
la
peu...
cagoule.
Voilà, alors Who's Next, des tendances, hein, effectivement, avec des marques, des acheteurs, alors j'espère bien sûr des marques de cagoule aussi. Édition 2022, 650 marques exposantes, avec 32% de nouveautés. Et donc j'ai demandé à Sylvie Poura, qui est directrice de l'offre, de me dire si la cagoule versus la capuche est vraiment une tendance pérenne.
Oui, une tendance ne dure pas qu'une seule saison, surtout celle-là. La tendance de la capuche émane du sportswear et le sportswear est toujours à la mode, donc il le sera sans doute l'hiver prochain.
Alors, une capuche, une cagoule hein, qui est inscrite dans le sportswear, mais bien évidemment, c'est l'univers de l'enfance vers lequel on se tourne, et je me tourne naturellement vers Nathalie Le Breton, puisque par les temps qui courent, on a bien besoin de revenir finalement à nos bases et à notre esprit enfantin.
Bon, l'univers de l'enfance et ses tendances est directement lié aux périodes de fragilité et d'insécurité qu'on traverse. Donc oui, tant qu'on aura le Covid, tant qu'on aura effectivement cette période d'insécurité, nous traverserons une zone de tendance liée à l'enfance et à l'aspect protectrice des vêtements.
Je ne sais pas si c'est un geste mode, mais c'est peut-être un geste barrière. Hein.
Alors, vous avez raison, c'est aussi un geste barrière. Et vous allez voir que notamment quand on la porte, il y a des façons très 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 barrières
mais
de
la porter. Justement, moi je veux bien la porter la cagoule, mais décrivez-moi, montrez-moi le chemin. Quelles sont les cagoules les plus modes?
Alors, côté matière, Julia, bien évidemment, je vous recommanderais quelque chose de doux, hein, plutôt du cachemire. Mieux vaut qu'elle soit douce, cette cagoule, puisqu'elle est quand même vraiment très près de votre tête.
Parce qu'elle nous grattait quand on était petite avec Mélanie.
Ben voilà, et donc on ne veut pas que vous soyez en train de vous gratter, n'est-ce pas mesdames? Donc on évite le polyester, hein, même recyclé, c'est pas très agréable. Donc une cagoule douce, et surtout, on fait attention à, vous savez, l'électricité statique, des fois on avait ça.
Quand on les enlevait, c'était horrible.
Voilà,
aussi.
Donc il faut vraiment faire très attention.
Les cheveux chiffonnés et en l'air, quoi.
Voilà, hein, qui se hirsute, qui se dresse sur la tête. Donc on fait très attention, on n'a pas envie d'avoir des antennes comme ça qui se dressent après. Donc j'ai une petite sélection. Alors bien évidemment, on a vu la cagoule auprès de marques extrêmement couture, comme chez Miu Miu, sublime cagoule en vert, d'un vert bouteille magnifique en noir. Alors effectivement, elle est un peu chère, hein, elle est aux alentours des 700 €. Forcément, ça fait un peu cher la cagoule. Et elle est portée par la sublime Olga Kurylenko en couverture de Liberty's Magazine. Vous savez, c'était cette James Bond girl,
magnifique,
une ancienne mannequin absolument
sublime.
Qui
se cache sous une cagoule.
Ou elle se cache pas trop. Parce que, bon,
je pense qu'il faut être belle comme elle pour mettre une cagoule en fait.
Bon, on est toutes des Olga un peu, vous savez. Ouais, plus ou moins. Ouais. Un plus ou moins, c'est sûr. Alors je vais vous proposer d'autres styles de cagoule. Alors on l'a vu bien évidemment dans côté couture, également chez Stella McCartney. Alors, pas vraiment sur un imprimé zèbre, mais noir sur fond blanc, donc avec des rayures. Elle est très belle et on peut la sortir facilement avec une tenue imprimée. Alors, attention à ne pas faire trop imprimer non plus, sinon vous allez ressembler à un yéti dans la montagne. Hein, et ça, on ne veut pas ressembler à ça. Donc là, c'était pour le côté des cagoules très, très mode.
Bon, et comment on la porte, la cagoule? Et surtout, donnez-moi des cagoules plus abordables.
Je vais vous donner des cagoules plus abordables, vous avez bien raison. Alors, pour le côté plus populaire sur la façon de la porter, donc on a la façon capuche qui couvre la tête, le cou, le menton. Mais attention, on laisse quand même le visage dégagé. Donc on est quand même dans cette version de l'enfance. On peut la porter dans une version très camouflante. Alors une cagoule qui ne laisse apparaître que les yeux. Voilà, Philippine me fait le geste, c'est exactement ça.
Ah oui. Alors vous en portez, Philippine? C'est un peu comme les yakuza. Non mais voilà. J'ai vu pas mal de mannequins en
oui,
portée sur les
réseaux
sociaux.
C'est ça, c'est très mannequin. Alors on l'a vu chez Marine Serre. Alors on est sur quelque chose effectivement de très modeux et qui ne va pas forcément à tout le monde. D'autant plus que cette cagoule est en nylon avec un imprimé lune. Donc attention. Donc là je vais proposer à Mélanie des cagoules beaucoup plus accessibles.
Merci quand même.
Alors on l'a en faux mouton chez Burton, beaucoup plus accessible en termes de prix, est très belle. On l'a chez Zara, vous la trouverez en maille avec des couleurs nude, crème, qui sont aussi dans cet esprit bien-être, cocooning.
Ça coûte combien chez Zara?
Et là, on est autour des 30, même non, 15 €. Et chez American Vintage, 30 € dans une cagoule ultra douce, nude, beige et donc très agréable à porter. Vous la trouverez également chez Topshop aussi. Alors, vous pouvez la porter en total look, assorti hein, à votre tenue, donc dans la même couleur. Attention tout de même au petit côté Teletubbies, surtout voilà, si vous avez une tenue très colorée, je pense aux tenues rose fuchsia notamment. Autre option plus casual, plus classique, la cagoule qui est rentrée dans le pull pour un petit effet mode assuré chic. Et du coup, vous aurez le bénéfice de l'écharpe en simultané. Bon, comme on ne va pas aller acheter une cagoule chez Bonton ou Jacadie, hein, je vous propose aussi chez Weekday, voilà, où on retrouve en fait ces cagoules très enfantines dans des tons bleutés qui donnent une envie de montagne. Bien sûr, il y a aussi les grandes marques de sport, Nike et Decathlon. Et là, vous trouverez des cagoules alors noires, plus classiques, mais qui sont du coup peut-être moins amusantes. On a envie de couleurs.
quand même, cette saison.
Oui, vous m'avez donné envie de mettre une cagoule.
Ah, je suis contente, Julia. Et de danser, et de retourner aux soirées en cagoule.
Merci Sophie pour cet éclairage. C'est vrai que les tendances mode, on aime ou on n'aime pas, mais comprendre en tout cas comment et pourquoi certains vêtements refont leur apparition parfois, eh bien c'est déjà intéressant en tout cas. Maintenant, on va ôter la cagoule et prendre soin de notre peau avec vous, Philippine Darblay, la grande coqueluche beauté de la rentrée qui va nous aider à détoxifier en cette période d'après-fête. C'est un sauna, mais un sauna un peu particulier. Celui-ci serait infrarouge. Expliquez-nous.
C'est vrai que ça fait un peu peur comme ça. On se dit infrarouge, on imagine déjà des lasers, un monde de science-fiction un peu à la manière de...
Je suis ton père.
Bon, je vous arrête, hein. Ça n'est pas du tout de la science-fiction. La bonne nouvelle, c'est que c'est bien une réalité et c'est même une technologie qui vous veut du bien.
Alors, c'est quoi la différence avec un sauna classique ?
Eh bien, alors justement, en parlant de sauna classique, qui aime le sauna classique autour de la table ?
Moi, j'aime pas. Ça fait l'unanimité. Ah non, il n'y a que Julia qui a pas. Julia, elle est hammam.
Moi, j'aime pas trop non plus.
Moi, je suis team hammam.
Bah voilà, moi, je trouve ça un peu oppressant. Enfin, j'adorerais adorer parce que c'est très chic. Ouais. Hein, on a de la chance de pouvoir aller au sauna quand on y va. Mais bon, c'est un peu chaud. Et bien, justement, ce sauna infrarouge, c'est une version plus douce et surtout, ce qui nous intéresse ici, beaucoup plus efficace pour éliminer. J'ai parlé à Hortense, qui est coach beauté pour Oh My Cream à Paris, qui est un salon qui en détient un fameux sauna infrarouge, et elle nous explique comment cette petite invention nippone fonctionne. Voilà.
À l'intérieur, la différence avec un sauna classique, c'est que le système de chauffage, c'est par infrarouge. Donc c'est des ondes qui vont venir pénétrer en profondeur dans la peau. Donc ça va jusqu'à 4 mm au niveau du derme. Donc c'est quand même assez profond pour réchauffer le corps naturellement. Et la différence aussi, c'est qu'un sauna traditionnel est chauffé jusqu'à 110 degrés. Le sauna infrarouge, c'est 60 degrés maximum. Donc c'est beaucoup plus respirable quand on est à l'intérieur, ce qui permet de faire des séances beaucoup plus longues. Là, on peut faire une séance de 30 minutes sans souci.
Donc voilà, vous l'aurez remarqué.
C'est comme un four à vapeur douce.
Voilà, c'est exactement ça. En fait, ça chauffe non pas avec un poêle, mais avec des rayons infrarouges. Et du coup, la conclusion, c'est qu'on sue, bah oui, c'est le principe, hein, trois fois plus au minimum qu'un sauna classique. Et donc, on élimine toutes les toxines.
Mais comment ça se passe une séance exactement ?
Eh ben alors, j'ai testé ce fameux sauna dans un autre salon, cette fois, qui s'appelle The Sweat Lab, qui est aussi à Paris, hein, puisque c'est là où j'habite. Et Anne, la cofondatrice du lieu, nous guide un peu dans le déroulement de cette séance.
Vous allez vous mettre donc soit en maillot de bain, soit nu dans une serviette, et vous allez vous installer dans le sauna infrarouge, soit seul, soit à deux. Nous, on propose vraiment les deux possibilités. Et la séance se passe alors soit en lisant un bouquin, soit en écoutant votre playlist, soit en vous branchant via le Bluetooth, ou alors on propose une télé à disposition, la série Netflix que vous préférez, etc. Vous vous détendez, ou bien plus rien, et vous vous relaxez, vous vous endormez.
Bah alors du coup, moi j'ai fait une séance assez courte, et je dois dire honnêtement, c'était très agréable, c'était pas agressif déjà, il n'y a pas ce côté genre, vous prenez un coup de chaud dans la tronche, si je puis dire. Et puis on ressort, on est un peu comme sur un petit nuage, et surtout, j'ai trouvé ma peau vachement douce, très très douce.
Donc Philippine, ça permet non seulement de détoxifier, mais ça agit aussi sur la peau, hein, c'est
et,
ça.
Bah oui, en fait, c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que les bienfaits au-delà de l'élimination sont en fait nombreux, tant d'un point de vue beauté que santé. Et ça, c'est Hortense de chez Oh My Cream qui l'explique.
La détox, purification du corps en profondeur, ça agit sur les défenses immunitaires, c'est top quand on fait du sport puisque justement ça va détendre les muscles. Et puis bien évidemment la beauté, c'est top quand on a des imperfections, ou quand on veut stimuler l'élastine, le collagène, quand on veut cicatriser la peau aussi.
Mais c'est magique en fait.
Ouais, c'est génial.
C'est ça, vous nous vendez de la magie.
C'est génial.
Donc voilà, il y a une bonne ambiance.
Hein. Oui, mais maintenant que vous nous avez fait envie, il va falloir répondre à deux questions. Combien ça coûte et où on peut trouver cette technologie ?
Alors voilà, c'est une technologie qui est toute nouvelle. Aujourd'hui, il faut compter, en tout cas dans les salons dans lesquels j'ai testé, autour de 50 euros la séance. C'est beaucoup plus avantageux à deux. En fait, on peut y aller en couple, entre copines. Bien sûr, hein, on ne fait pas de bêtises dans ce sauna, hein, on reste calme. Et on tombe autour de 30-40 euros la séance à deux. Et alors, c'est des saunas qu'on retrouve énormément à New York et à Londres. On voit que ça arrive doucement en France. Il y en a pas mal à Paris, enfin quelques-uns, pas tant que ça. Et j'en ai vu aussi à Toulouse et en Mayenne. Donc gardez un œil, ça se trouve, il y en aura un bientôt près de chez vous.
Et justement, si j'en ai pas encore un près de chez moi, de ces saunas infrarouges, comment je peux tester quand même cette technologie, Philippine ?
Et y a des masques infrarouges. Donc c'est des masques pour le visage qui reprennent ce principe d'infrarouge et de luminothérapie. Et ça cartonne sur les réseaux sociaux. Je vous en parle d'ailleurs dans les prochaines semaines. Voilà.
Oh, génial.
Sophie Braffman, Nathalie Le Breton, ça vous tente ? Ça a l'air sympa, non ?
Ah ouais, moi j'adore tester. Donc je suis très curieuse, j'ai très envie d'essayer.
Alors, vous enlèverez la cagoule hein, pour
alors,
ça quand
sans
même,
la
Sophie.
Cagoule, ouais. Et en cabine duo.
J'aime beaucoup. Et on n'a pas le côté un peu claustro ?
Eh ben non, justement, en fait, c'est assez doux. Déjà, la lumière est rouge foncé. Certains de ces saunas sont un petit peu en version allongée, donc en fait, beaucoup plus confortable. Et puis la chaleur, en fait, ça, c'est maximum 60-65 degrés,
ah oui,
je
c'est
crois.
Beaucoup plus supportable.
Versus 100 et quelques dans les saunas classiques. Donc, c'est un tout petit peu endormissant. Enfin bref, on commence un peu à s'endormir, mais dans un côté positif. Quoi,
Julien, vous allez faire le bain de gong, la sonothérapie, enchaînée avec le sauna infrarouge.
Et vous serez... allez chez le thérapeute de couple.
Ouais, puis je mettrai une thermo. C'est parfait. Merci beaucoup Philippine pour ce focus sur cette nouvelle tendance beauté qui prend soin de notre peau et qui nous permet peut-être d'éviter d'avoir à porter une cagoule. Enfin, vous pouvez, mais si ça vous tente, bien évidemment, car c'est très à la mode, vous l'avez compris. Merci à toutes les trois. On vous retrouve très bientôt dans Bienfait pour vous. Avec Mélanie, nous serons bien entendu de retour demain dès 11h. Et Mélanie, de quoi va-t-on parler demain?
Alors Julia, demain on va se poser cette question. Peut-on vraiment aller mieux grâce à nos animaux? Vous savez, on dit que souvent les chiens, par exemple, sont les meilleurs amis de l'homme. Mais est-ce que cela a des bases scientifiques? On parlera aussi des bienfaits des chats et d'autres animaux comme le cochon d'Inde ou le lapin. Et oui, eux aussi, ils nous veulent du bien et on vous dira tout demain dès 11h.
D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi si vous le souhaitez sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.